Merci Yvon-Pierre, Marie-Michel, Carmen. Alors, la semaine passée, notre bien-aimé Jacques a développé le sujet de l'humilité. Alors, j'ai pensé qu'il serait de mise de développer le sujet de l'orgueil. Parce que quand on comprend un, c'est important de comprendre l'autre aussi. Disons que les deux mis en parallèle, ça nous aide à y voir un peu plus clair. C'est un peu comme les bras d'une brouette ou les deux roues d'une bicyclette. Alors, prions. Eh bien, Seigneur, merci tellement pour ces gens-là qui acceptent de mettre plein de choses de côté pour venir te louer et t'adorer. Toi, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui nous as créés, mais qui est venu dans un corps, dans un homme, en Christ, prendre mon péché, le péché de mes amis ici. Et en plus de ça, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et ce matin, on veut examiner quelque chose que toi, tu détestes. L'orgueil. On veut examiner quelque chose avec lequel on lutte tous. Et aide-nous à être plus sensibles à cela. En Jésus-Christ. Amen. Alors, Jacques et Pierre utilisent le même texte. Ils disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La dernière chose que je veux, c'est que Dieu me résiste. Et dans le livre des Proverbes, il est écrit qu'il déteste l'arrogance ou ce péché-là en particulier. Il y a beaucoup de problèmes avec l'orgueil. Et le premier problème que moi, je constate, c'est que si je nous demandais ce matin de définir l'orgueil, définissez-moi l'orgueil, c'est que la majorité d'entre nous, on arriverait avec une définition, puis on s'exclurait, on dit « Ah, c'est pas moi, donc je suis correct. » L'orgueilleux, pour moi, ça serait, tiens, un auto de luxe. J'ai une Corolla, donc je suis correct. Je suis pas orgueilleux. Ou bien non, de dire, je me pense meilleur que les autres. Je dis, non, je ne me pense pas meilleur, donc je suis correct. Ou bien non, peut-être certains d'entre vous, vous définiriez l'orgueil en, c'est les gens qui se vantent. Oh, moi, je ne me vante pas, oh, je suis correct. Ou ceux qui se regardent dans le miroir toujours. Non, je ne fais pas ça, non, je suis correct. Et ça, c'est un problème, c'est qu'on définit l'orgueil souvent. La Bible dit qu'on a des cœurs tortueux, hein? Et on définit l'orgueil, on s'exclut, puis on dit « Oh, je suis correct ». Ou bien non, on restreint l'orgueil beaucoup, puis on ne voit pas que l'orgueil a tellement de visages, tellement de manifestations différentes, et puis on ne les voit pas très bien. Alors, c'est pour ça que j'ai amené un chou ce matin. La raison pourquoi j'ai amené un chou, c'est qu'un chou, c'est plein de feuilles, de couches. Puis pour moi, c'est un peu ça l'orgueil. Il y a plein de couches différentes, un peu comme un oignon ou un chou. Alors, mon ami Caleb, comme c'est sa fête, j'ai demandé tantôt de m'enlever une couche. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va enlever les différentes couches de l'orgueil. Et le but, c'est de nous sensibiliser avec ce péché-là. Parce que la réalité, c'est que l'orgueil, là, ça envenime ma relation avec Dieu. Dieu me résiste quand je suis orgueilleux. L'orgueil, ce que j'ai remarqué avec les années aussi, en plus d'envenimer ma relation avec Dieu, ça envenime ma relation avec ma femme. Chaque fois que je suis orgueilleux, ça ne marche pas. Ma femme me résiste. Ça envenime aussi ma relation avec mes enfants, définitivement. L'orgueil va envenimer ma relation avec vous. Et certainement, l'orgueil va envenimer ma relation avec les gens à l'extérieur de l'Église. Alors, ce n'est pas un péché, c'est un péché qui est difficile à saisir, à voir l'étendue de tout ça. Alors, le but ce matin, c'est de nous rendre plus sensibles à ce péché-là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à enlever des couches de l'orgueil. Et s'il vous plaît, résistez à la tentation suivante. « Oh, ça, c'est un tel dans l'Église. » Ou « Oh, ça, c'est lui qui parle en avant. Ça, c'est Sylvain, là, tout craché. » Croyez-moi, je le sais déjà. Alors, résistez à ça, parce que sinon, vous allez manquer le but. Alors, la première couche que je vais... Alors, mon ami Caleb, viens en avant, enlève une pleure de mon chou. Ça, c'est la première pleure. Tu peux la mettre à la table. Mange-la pas, là. OK. Alors, la première pleure, c'est que une des caractéristiques de l'orgueil, là, c'est quelqu'un qui va se plaindre de Dieu dans différentes circonstances de sa vie. Exemple, si tu passes par un moment difficile, la première pensée de l'orgueilleux, c'est de dire, regarde tout ce que j'ai fait pour Dieu, puis regarde ce qui m'arrive. Ça, c'est une des caractéristiques de l'orgueil. On retrouve ça dans Romains 9, 20. C'est, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Alors, quand il nous arrive des moments, des choses difficiles, la première réaction, est-ce que c'est de blâmer Dieu? Ou de dire, Seigneur, t'es maître, t'es Seigneur, j'accepte ce qui m'arrive. Pas de me dire, tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, puis regarde ce qui m'arrive. Suivant ça, cette première, c'est se plaindre de Dieu. La deuxième, c'est un manque de gratitude. L'orgueilleux, un homme ou une femme qui est ingrat. Parce que dans le fond de lui-même, là, il pense qu'il mérite toujours ce qui est bon. Et souvent, il va se plaindre parce qu'il se dit, je devrais avoir plus encore. Alors, c'est quelqu'un, un orgueilleux n'a pas tendance à rendre grâce à Dieu et aussi à remercier les autres. Et ça, on voit ça dans 2 Chroniques 32. Alors, tournez vos bibles, hein, elle est fascinante cette histoire-là. Alors, tournez vos bibles dans 2 Chroniques 32. C'est l'histoire d'Ézéchias. Dieu le guérit. Il était malade et Dieu le guérit. Regardez bien ce qui est arrivé à Ézéchias. Alors, 2 Chroniques 32. Alors, les versets 24, alors 2 Chroniques 32, verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Il l'a guéri. Regardez ça ici. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Un manque de gratitude, c'est une des couches ou des caractéristiques d'un orgueilleux. Manque de gratitude à l'égard de Dieu et aussi à l'égard des autres. L'orgueilleux pense que tout lui est dû. Une autre caractéristique de l'orgueil, c'est la colère. Les gens orgueilleux vont tomber en colère très rapidement. Ils vont piquer des crises ou ils vont bouder. Parce que ça, le fond, c'est la même chose. Hein? Piquer une crise. Souvent, les hommes ont piqué des crises, ça sort. Et les femmes, je ne veux pas être sexiste, là, mais souvent, les femmes vont bouder. C'est une autre manifestation. Pourquoi? Parce qu'eux sont convaincus que leurs droits ou leurs atteintes sont bafouées. j'ai droit à ça, puis etc. Alors, je ne le reçois pas. Alors, c'est de colère, c'est du boudage, etc. Et ça, on voit ça dans Matthieu 20, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Ceux qui ont travaillé 11 heures, et tout ça, eux autres, ils ont eu le même salaire que celui qui a eu une heure. Là, ils étaient choqués, eux autres murmuraient. Alors, ça, c'est une caractéristique de l'orgueil, la colère ou le boudage. Une quatrième, c'est l'orgueilleux, ça c'est une évidence, ça, il se voit meilleur que les autres. Alors, un orgueilleux se voit essentiellement au-dessus des autres et il n'y a pas de tolérance des différences. Alors, il se voit supérieur aux autres, contrairement à ce que Paul nous dit dans Philippiens. Quand dans Philippiens, il dit « Regardez les autres comme supérieurs à vous-même ». Mais comment on fait ça? C'est simple, c'est quand je regarde Paulette, je regarde ce que Christ a fait dans sa vie. Et quand je me regarde moi, je regarde ce que Christ a à faire dans ma vie. Alors, c'est un peu ce que Paul veut dire. Dans l'Église, regardez ce que Christ fait. Fait dans la vie des autres, et puis quand vous vous regardez vous-même, regardez tout ce que Christ a à faire dans votre vie. Alors, ça fait des rapports mutuels qui sont beaucoup plus sains. Et c'est la même chose dans le couple. Quand le mari regarde sa femme, il peut l'admirer, la voir supérieure à lui, dire « Waouh, je suis tellement reconnaissant tout ce que le Seigneur fait dans la vie de ma femme et tout ce que le Seigneur a à faire dans ma vie à moi. » Alors, ça nous garde dans une position d'humilité dans le couple et dans l'Église. Une autre qui est évidente, c'est avoir une vue exagérée de son importance. Alors, on se pense en fait des légendes. On se pense tellement important et tellement essentiel. Et celle-là, je me souviens quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu ça dans le cœur. Et moi, j'avais monté un programme d'immersion à l'école là, qui était impeccable. Puis ça m'a passé par la tête. Je me souviens d'avoir dealé avec ça dans mon cœur. Et quand je vais prendre ma retraite, tout va s'effondrer. Guess what? Je faisais de la suppléance. Ça va très bien en immersion à l'école. Ça fait 4 ans que je suis retraité. Alors, Paul, il dit dans 1 Corinthiens 4, 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » pour que tu te glorifies. Alors, n'ayons pas une vue exagérée de nos habiletés ou de nos dons ou quoi que ce soit. Alors, ça nous garde humble quand on se dit que ce qu'on a reçu, ça vient du Seigneur. L'inverse est aussi vrai. Tu as des gens qui sont centrés sur leur manque, puis qui se plaignent, oh, ils sont pas bons, je suis pas assez ci ou je suis pas assez ça, etc. Mais ça aussi, c'est une autre manifestation de l'orgueil, parce que, dans le fond, je suis focalisé sur moi encore, sur mon manque de ceci ou mon manque de cela. Alors, ça aussi, c'est une manifestation plus cachée de l'orgueil. Les gens, ils ont l'air de se rabaisser, mais dans le fond, ils parlent d'eux autres-mêmes. Comprenez? Septième, le perfectionnisme. Les gens qui sont des perfectionnistes. Ils veulent que tout soit absolument parfait selon leur standard. Il n'y a rien de mal de vouloir bien faire les choses. Là où ça devient un problème, c'est quand que le perfectionniste est absolument frustré de ce que les autres ne rencontrent pas ses standards à lui ou à elle. Ça, c'est une autre manifestation d'une forme d'orgueil. Alors, tournez vos Bibles dans Matthieu 23. Matthieu 23, on va lire les versets 23 à 28. Jésus ici parle aux pharisiens et il adresse une des manifestations de l'orgueil, c'est-à-dire le perfectionnisme. Verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, la dîme, mais sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. C'est-à-dire qu'il était obsédé avec les détails. Puis il négligeait les choses importantes. Je le répète, c'est correct de vouloir bien faire les choses. Mais quand vous tombez sur la tête des autres qui ne font pas ces choses-là à votre niveau, à vous, c'est là que c'est mal. C'est une forme d'orgueil. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Ça a l'air beau au dehors, le perfectionnisme. Mais en dedans, des fois, là, c'est tellement dur et inflexible face aux autres, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, d'os, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au-dehors, vous paraissez juste aux yeux, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, je le répète, ma femme m'a enseigné à bien faire les choses. Elle est beaucoup plus perfectionniste que moi. Et c'est une bonne chose de bien faire les choses, mais ça devient une mauvaise chose quand l'autre ne rencontre pas tes standards, puis ça devient du mépris de la part de celui qui est perfectionniste. Une autre couche. Tiens, Caleb, viens enlever une autre couche. Ça, merci. Alors, c'est comme si on fait ça avec l'orgueil présentement. On enlève une couche après l'autre, on essaie de comprendre davantage ce péché-là que Dieu a en horreur. Trop parler. Trop parler, ce n'est pas toujours un indice d'orgueil, mais trop parler, quand celui qui parle trop, la raison pourquoi il parle trop, c'est que dans sa tête, pour lui, les autres qui ont dit, ce n'est pas intéressant. Alors, ça, c'est un problème. C'est un caractère de l'orgueil. C'est pas de trop parler, parce qu'il n'y a rien de mal d'exprimer tes opinions ou d'avoir des réflexions et tout ça. Mais si dans ton cœur, tu te dis à chaque fois quand tu parles, mon ami, là, écoutez-moi, je suis la référence et les autres, vous êtes des ignorants. Ça, c'est à chacun de juger son cœur à ce niveau-là. Alors, Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19, ça dit ici que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors, je répète, parler ou aimer parler, c'est une chose, mais si l'attitude dans le cœur, c'est que, parce que quand toi tu parles, c'est intéressant, puis quand les autres parlent, ça ne l'est pas intéressant, ça c'est un problème. Il y a définitivement une autre caractéristique ici de trop parler ou trop parler de soi-même. Ça, c'est évident. Vous savez, quand il y a une conversation entre des individus, puis là qu'on sent qu'à chaque fois qu'il y a une conversation, la personne tourne toujours ça vers ses intérêts à elle, ses affaires à elle. Puis on n'a jamais l'impression qu'il y a une communication, mais que ça devient toujours un monologue à chaque fois. Ça, c'est un problème. Comment est-ce que je suis quand je discute avec les gens? Est-ce que je ramène ça toujours à moi, à mes intérêts, ou je suis capable d'écouter l'autre, de me mettre de côté, puis d'embarquer dans la conversation? Ça, c'est important, ça, dans le couple, ça. Proverbe 27, verset 2. Proverbe 27, verset 2. Alors, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Alors ça, c'est une caractéristique de l'orgueil, de tourner les conversations toujours autour de soi. Une autre caractéristique de l'orgueil, c'est le contrôle. Quand on a vraiment là, une obsession de tout contrôler, j'ai un de mes amis qui a quasiment mis fin à son mariage. Parce qu'un des deux était, en anglais, c'est quoi, control freak qu'on appelle? Tout contrôler, ça tire sa racine dans une manifestation de l'orgueil. Tout contrôler. L'orgueilleux, lui, il veut tout contrôler parce qu'il n'a pas besoin des autres. Puis ce sont des gens rigides, entêtés, têtus, intimidants même. Paul dit dans Éphésiens qu'on est appelé à se soumettre les uns aux autres, et non pas à se contrôler les uns les autres. Il y a une différence entre avoir du contrôle ou du leadership. C'est certain qu'il faut prendre du leadership, prendre les choses en main des fois, mais ça c'est une chose, mais de vouloir tout contrôler, ça, c'est toxique, ça. C'est toxique dans les relations d'église, c'est toxique dans les relations de couple et de famille. Une autre couche de l'orgueil, c'est d'être préoccupé principalement par ce que les autres pensent. Si toutes mes décisions sont motivées par qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont penser, c'est quoi derrière ça? Est-ce que si j'ai un besoin immense d'être estimé et d'impressionner les autres? Pourtant, Paul, il disait que sa motivation pour lui, ce n'était pas de plaire aux hommes, mais c'était de plaire à Dieu, premièrement. Jésus était dit de lui qu'il n'enseignait pas, qu'il ne regardait pas aux apparences des gens, mais qu'il enseignait selon la droiture et la vérité. Plaire aux autres. C'est une chose de vous avouer. Ça ne veut pas dire que notre but dans la vie, c'est d'offenser les gens. Ce n'est pas ça mon but. Mais mon but premier dans mes décisions, c'est de plaire à Dieu. C'est ça qui doit être notre motivation. Dans mon message d'évangélisation aussi. Dans la prédication, ou dans mes rapports, au niveau du couple, on veut plaire au Seigneur ensemble. S'encourager un et l'autre à plaire au Seigneur. Une autre caractéristique de l'orgueil, c'est quand je suis absolument démoli ou fâché par la critique. Ça, c'est un qui est évident. Ça. Et celui qui apporte la critique, c'est certain qu'il y a une façon d'apporter une critique qui aide à l'avaler, là. Et c'est important dans le couple, ça. Mais essayons de nous poser premièrement la question. C'est pas tant la manière que la critique est apportée qui doit nous importer. C'est est-ce que ce qui m'est dit est vrai? Parce que souvent, si la manière est brutale un peu, on rejette la critique. Et on dit, oh, ben, j'aime pas la manière que tu me parles, puis etc. Oui, c'est correct, mais est-ce que la personne a dit la vérité? C'est ça que je dois gérer. Et quand je suis soit fâché ou démoli, quand j'agis de même, je me dis, oh, ça, c'est la face de l'orgueil qui se monte dans mon cœur. Puis là, j'essaie tout de suite de me poser la question, ce qu'on me dit là, c'est-tu vrai? Si c'est vrai, bien, ça qu'elle a. Comprends-tu? Avale ta pilule. Et même si ce n'est pas dit d'une façon que moi, ça me plaît, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'on me dit. C'est pas facile, ça. Alors, l'orgueilleux, lui, va être soit démoli ou fâché par la critique, et c'est là où on tombe dans la colère ou dans le boudage. Alors, on en rajoute une au plus. Et c'est Proverbe 13, 1. Alors, je prends cette idée-là dans Proverbe 13, 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Alors ici, on peut remplacer un mari sage écoute l'instruction de sa femme aussi. Ou l'inverse, un père sage écoute l'instruction de son enfant. Ça arrive des fois en vieillissant, croyez-moi. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Un moqueur, c'est un orgueilleux. Tu n'écoutes pas la réprimande. Alors, être démoli ou fâché par la critique. Une autre caractéristique de l'orgueilleux, c'est l'orgueilleux, ce n'est pas un serviteur. Parce que lui, dans sa tête, là, le monde est là pour le servir. C'est comme ça qu'il pense un orgueilleux. Les gens sont là pour me servir. Mais la parole de Dieu nous appelle à servir. Et la raison pourquoi l'orgueilleux, lui, n'aime pas servir, c'est que ça implique, servir quelqu'un, ça implique que les besoins de l'autre sont importants. Mais pour l'orgueilleux, lui, les besoins de l'autre, ce n'est pas important. C'est ses besoins à lui, en premier. Paul nous dit quoi dans Galates 5, 13? « Rendez-vous serviteurs les uns des autres. » Hey, je pensais à ça cette semaine, je me dis, ça veut dire que j'ai 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 26, 26, 28, 30, 15, j'ai 34, 33 serviteurs. Ah, c'est super ça, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Et vous avez aussi 33 serviteurs et servantes. C'est profond cette phrase-là. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Mon ami, une église où tout le monde croit ce verset-là, il n'y a plus de problème. Quand il y a un besoin, il y a un serviteur. Un autre besoin, un autre serviteur. On n'est pas là à faire des appels à plus finir. Bon, qui c'est qui veut balayer l'entrée en avant, etc. On va en avoir trois. On doit avoir un problème, c'est de sélectionner la personne qui fait la job. Une autre caractéristique, et ça va aller avec ton, ce que je viens de mentionner, Jacques, ça va avec ton thème, le corps de Christ. 14e plure. Un orgueilleux n'est pas quelqu'un d'enseignable. Parce que dans le fond, lui, il sait tout. Proverbe 19, verset 20. Proverbe 19, verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Alors, l'orgueilleux n'est pas enseignable. L'orgueilleux, lui, ne demande pas conseil parce qu'il est la référence. Ah, ça, c'est tellement une belle qualité, ça, dans le couple, là, quand les deux sont enseignables. Le mari est enseignable, sa femme peut lui dire des choses. Et le mari peut dire des choses à sa femme. On est enseignable. Fais attention à ça, ou etc. Être enseignable. Quand je me redis, quand ma femme me parle, puis je me redis, puis qu'elle veut me donner des conseils, là, je le sens dans moi, je le sens. Je le sais que c'est un visage de l'orgueil qui se manifeste dans mon cœur. Être sarcastique, blessant ou dégradant. L'orgueilleux, des fois, va manifester son orgueil et il va avoir tendance à vouloir rabaisser l'autre. Parce qu'il veut s'élever. J'ai un concierge à l'école où j'étais, là. Tu sais, ce genre de personne-là, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous parlez à ces gens-là, là. À chaque fois que vous avez fini votre conversation, là, c'est comme si vous alliez lécher vos plaies. il me laissait à chaque fois là, dans une... Il était blessant et dégradant. Et des fois, tu as des couples qui sont comme ça. Ils se blessent, ils se dégradent mutuellement. Et c'est des caractéristiques de l'orgueil, ça. Le manque de compassion. L'orgueilleux n'est pas quelqu'un de compatissant. Pourquoi? Parce que l'autre ne l'intéresse pas, essentiellement. Il est préoccupé par lui plus que les autres. Ça, on trouve cette idée-là dans Matthieu 18. Alors, tournez vos Bibles dans Matthieu 18. Le manque de compassion. Et on le voit dans l'histoire du pardon des offenses, au verset 30. Le premier s'était fait pardonner un paquet de choses et remettre sa dette. Et au verset 30, il a rencontré son ami qui lui devait juste un peu. Puis regardez son attitude au verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. Oh, il dit au verset 29, « Aie patience envers moi, je te paierai tout. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Et ses compagnons étaient attristés de ça et tout le reste de l'histoire. Ce que ça indique ici, c'est que cet homme-là était tellement orgueilleux. Il venait de se faire remettre une énorme dette. Il y a la question du pardon ici, mais il y a la question de l'orgueil. Le problème dans le cœur de cet homme-là, c'était l'orgueil. Il s'est fait pardonner ou remettre une dette. Puis il n'est pas capable d'avoir compassion à l'égard des autres. Un orgueilleux n'est pas capable d'avoir compassion à l'égard des autres. Les autres, ça ne l'intéresse pas. C'est lui, lui et lui. Blâmer les autres, ça c'est une autre caractéristique de l'orgueil. Adam et Ève, quand ils ont péché, on retrouve l'histoire dans Genèse 3. Si vous lisez l'histoire correctement, là, attentivement, vous voyez qu'Adam a blâmé sa femme. Il dit, il a blâmé Ève, la femme que tu as mis dans ma vie. Alors, il a blâmé Ève et Dieu. Et Ève, elle a blâmé le serpent. Le serpent n'a pas blâmé personne. C'est difficile de dire, je suis coupable. Ta femme te reproche de quoi? Tu ne blâmes pas ça sur tes parents à toi. Tu ne blâmes pas ça sur les circonstances. Je suis coupable. Proverbe 12:1, Genèse 3, versets 12 et 13, ça nous enseigne ça. Alors, si je ne suis pas capable de blâmer les autres, bien là, ça m'arrive à la prochaine, c'est que je ne suis pas capable d'admettre mes torts. L'orgueil, lui, va se manifester dans la vie de quelqu'un quand que il cherche toujours des excuses. Et ça, ça a été un point tournant dans notre vie de couple. Ça. On s'est marié en 84 et rendu en 1986, on avait un mur entre moi et Ginette. On avait déjà un mur. Puis ça faisait, je dirais, 2 ans au moins là, que chaque fois que quelqu'un faisait de quoi, on l'excusait toujours. « Oh, je suis fatigué, ou je suis stressé, j'ai eu une mauvaise journée, etc. etc. » Puis au bout de 2 ans, j'avais remarqué qu'entre Ginette et moi, il y avait comme un mur. Puis là, je me souviens encore, là, on était venu de l'Alberta en 86 pour visiter pendant l'été, puis on était à Gatineau, on marchait dehors, puis Ginette, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, on est arrivé à la conclusion que c'était exactement ça qu'on faisait. On excusait nos péchés. Exemple, j'ai été impatient avec Ginette, j'ai eu une mauvaise journée à l'école. Et vice-versa. Et puis, il n'y avait pas de pardon comme ça, jusqu'au jour où on s'est dit, on va dire les choses comme elles sont. J'ai péché contre toi, Ginette, j'ai manqué de patience à ton égard, j'ai manqué d'amour. Et ça, ça a changé notre vie de couple énormément. Ça. Les murs se sont vraiment rétrécis. Admettre ses torts, je suis coupable. Et si je ne suis pas capable d'admettre mes torts, je ne suis pas capable de demander pardon. Je te demande pardon. Les gens qui ne demandent jamais pardon, c'est une autre caractéristique de l'orgueil. Il y a deux raisons pourquoi les gens ne vont pas demander pardon. Soit que l'orgueil les aveugle tellement, ils ne voient pas le péché. Ou bien non, ils ne peuvent pas se mettre dans la tête de s'humilier devant leur conjoint ou leur enfant et de dire « Je te demande pardon. J'ai péché. » Dans Matthieu 5, on voit ces choses. Matthieu 5, versets 23 et 24. Et je vais terminer avec celui-ci. Le manque de prière. Un orgueilleux n'est pas un homme ou une femme de prière. Pourquoi? Parce que aller en prière, là, c'est de se mettre dans une situation de dépendance et d'humilité face à Dieu. Et ce n'est pas le cœur de l'orgueilleux, ça. Et si un orgueilleux prie, c'est toujours par rapport à lui. Jamais par rapport aux autres ou par rapport à Dieu. On voit ça dans Luc 18. Tournez vos Bibles dans Luc 18. Verset 10. Alors, Luc 18, verset 10. Alors, tu as deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait ainsi. Alors, l'orgueilleux, ce n'est pas un homme de prière, mais quand il prie, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain, lui, se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » Alors, ça, c'est un peu une caractéristique exagérée là, d'un orgueilleux. Mais ses prières, l'orgueilleux, c'est toujours centré sur lui. Et extrêmement de la difficulté à prier pour les autres. Alors, la liste n'est pas complète. Vous en avez peut-être d'autres à me dire. J'en ai sorti une vingtaine de couches du chou, là. Et ma prière, c'est qu'on ait une attitude humble ce matin. Et puis, j'espère qu'on a peut-être réalisé davantage que l'orgueil, dans le fond, fait beaucoup plus partie de nos vies qu'on le pense. Et quand on lit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est sérieux. C'est très sérieux. Là, on parle de Dieu qui me résiste. C'est la dernière chose au monde que je veux. Dieu, que mon voisin me résiste ou quoi que ce soit, mais pas Dieu. Et si ce matin, vous vous êtes senti visé, soyez certain que ces réflexions-là que j'ai données ce matin s'adressent à moi. Et je suis pas mal conscient. Alors, si vous m'avez pointé du doigt dans votre cœur, « Ah, ça c'est lui! Ah, ça c'est lui! Ah, ça c'est lui! » Je suis conscient. Mais en même temps, le but ce matin, c'est qu'on soit plus sensibilisé face à ce péché-là. Beaucoup plus sensibilisé. Parce que je l'ai dit au début, ça envenime nos relations avec Dieu, avec nos maris, nos femmes, nos enfants, bien plus qu'on pense. Et le but, si vous vous êtes senti coupable, c'est pas mauvais. C'est correct de se sentir coupable, c'est très bien même. Mais si ce sentiment de culpabilité-là doit nous amener à une confession, dire, tu vois, Seigneur, moi, l'orgueil, là, j'étais très limité dans ma façon de voir ça, puis là, je viens de voir que, waouh, il y a pas mal plus de caractère, de caractéristiques de l'orgueil, puis ça, je vois ça ce matin dans mon cœur, et je te demande pardon. Alors, la culpabilité qui nous mène à la confession va nous mener au pardon. Et après ça, ça va nous mener à la transformation. Alors, dans le futur, au lieu de redire, je vais lâcher prise, dire, ah, oh, je vois, ah, oh, c'est l'orgueil, ça, c'est moi, ça. Comme ça, l'orgueil se manifeste dans ma vie, je lâche prise, Seigneur. Je le confesse. Et tout ça, ça nous mène à ce qu'on appelle la sanctification. Parce que quand nous sommes doux et humbles, c'est là qu'on ressemble le plus à Christ. Mais quand je suis orgueilleux, c'est là que je ressemble le plus au diable. Quand je suis orgueilleux, c'est là que je ressemble le plus au diable. Mais quand Christ manifeste son humilité dans mon cœur, c'est là que je ressemble le plus à Christ, parce qu'il dit de Christ qu'il était quoi? Doux et humble de cœur. Et ce matin, si tout ce que vous avez fait ce matin, pendant ces 30 minutes-là, c'est de pointer du doigt tout le monde autour de vous, ah, ça c'est une telle, ça c'est une telle, ça c'est une telle, ah, bon, moi je suis correct, tout ça. Je vous le dis, vous êtes profondément enraciné dans l'orgueil. Et vous avez manqué le point complètement. Vous comprenez? Alors, que le Seigneur nous aide à adresser les poutres, pas la poutre, mais les poutres, pas dans notre œil, mais dans nos deux yeux, qu'on l'adresse et qu'on puisse s'aider les uns les autres comme couple, comme famille. Ça transforme la vie de couple, ça, une attitude d'humilité. Ça transforme des familles, ça transforme l'Église. Il n'y en a plus de problème quand on est sensible à l'orgueil. Bien, Seigneur, c'était le but ce matin, c'était d'exposer les différentes caractéristiques de cet horrible péché, Seigneur, qui envenime tous les aspects de notre vie en commençant par notre relation avec toi et avec ceux qu'on aime, qui nous aiment. Aide-nous à être sensibles à ça, de l'identifier, de le confesser et de ne pas le laisser prendre racine dans nos vies. Et on ressemble tellement à toi, Seigneur, dans une marche d'humilité, et on est tellement loin de toi quand c'est l'orgueil qui nous caractérise. Seigneur, aie pitié de notre Église et aide-nous, Seigneur, à adresser ce problème-là, chacun dans nos vies, individuellement, et qu'on puisse aussi s'aider mutuellement. En ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.